Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
Alors pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Julie Foulon. Bonjour Julie.
Bonjour.
On est ravis de t'accueillir sur Next Step déjà, et puis pour te représenter un petit peu rapidement, tu es française, tu es titulaire d'un master en finance qui aurait pu te destiner à une carrière de trader dans une salle de marché, mais non, tu es venue en Belgique et tu as fondé le blog Girlik. Quelques temps après, c'est au tour de Molenbeek, un incubateur de start-up qui prône le digital comme facteur d'émancipation. Alors ça, je crois que c'est la façon la plus synthétique de dire les choses, mais je t'avoue que je suis curieuse de savoir comment une jeune française en arrive à lancer un concept aussi novateur et successful que Molenbeek.
Oui, bah, tout à fait. Bah, c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique. Donc moi, j'ai grandi dans un théâtre. Ma mère gérait un théâtre dans la banlieue parisienne de Paris, au Vésinet. Et puis, j'ai grandi aussi en Afrique, dans différents pays, au Gabon, Centrafrique, Burkina Faso, avec mon père, qui lui rendait accessible à la population les soins de santé. Donc il était vraiment économiste de la santé. Donc j'ai vraiment grandi dans une double culture, dans différents pays. Et puis, quand j'ai fait mes études, donc j'ai fait une prépa HEC en France, et quand j'ai dû faire mon école de commerce, j'avais beaucoup de mal à me situer dans les différentes filières. Et la finance, c'était quelque chose de très structuré et qui me rassurait énormément. Mais en même temps, quand j'ai pris en 2002, quand je suis rentrée au CERAM Sophie Antipolis, qui est devenu le Schema Business School, j'ai eu mon premier ordinateur portable et là, j'ai découvert la programmation, des outils du style Photoshop à l'époque. Et je trouvais que c'était
rigolo. Et là, t'avais quel âge ?
Et là, j'avais 20 ans, parce que c'était juste après, j'ai eu mon bac à 18
juste
ans, donc à 20 ans. Mm-hmm. Et c'était assez rigolo parce que finalement, créer des sites internet à l'époque, je faisais ça vraiment pour le fun. Bah, c'est allié le côté structure et très rassurant avec le code, et en même temps, y avait la partie hyper créative avec le design, puisqu'à l'époque c'était pas du tout normé, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, il n'y a pas du UX design, enfin c'était, on pouvait vraiment partir dans tous les sens. Et puis au lieu de finalement de faire tous mes stages dans des banques, je les faisais comme webmaster. Alors j'ai commencé par le théâtre de ma mère où j'ai fait mon premier site internet là-bas, puis j'ai continué et ça m'a beaucoup plu.
Donc alors, t'étais déjà assez marginale finalement.
J'étais complètement marginale, donc j'avais beaucoup de mal à trouver finalement ma voie, puisque les gens voyaient mon CV qui n'était absolument pas cohérent. Puis à la suite de ça, quand j'ai eu mon master en finance, quand j'ai été diplômée, je suis partie travailler pendant un an sur des yachts de milliardaires. Okay. Donc j'étais à Monaco, j'étais à Antibes, à Cannes, j'étais du côté aussi en Italie à San Remo. Et là, je voulais vraiment parfaire mon anglais et je voulais un petit peu voyager. Et puis mon papa, à l'époque, me disait, c'est bien, tu peux faire ça pendant un an, mais après, il faut que tu valorises ton diplôme. Et il se trouve que, évidemment, moi, je suis quelqu'un de hyper passionné. Et alors, je suis un peu accro au sport extrême. Et à l'époque, j'ai commencé à faire du parachutisme en Italie. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à sauter drop zone en drop zone. Et j'ai atterri du côté de Maubeuge. Et là, Maubeuge, c'est la frontière belge. J'ai rencontré des Belges.
Tu as passé la frontière ?
J'ai passé la frontière. Je suis arrivée à Templou, à Namur. Et les gens étaient tellement sympas. Les Belges étaient vraiment tellement fun, tellement gentils, tellement accueillants. Mais je me suis dit, mais en fait, j'arrive au terme de mon année sabbatique, je vais trouver un job dans une banque pour valoriser mon diplôme et le week-end, je pourrais continuer à sauter.
Et ça en Belgique alors ?
Et ça c'est en Belgique, c'était en 2006.
Donc un parachute t'a emmené ici ?
Tout à fait.
Okay.
Et alors, j'ai cherché du travail, mais j'ai quand même aussi cherché sur Paris. Alors évidemment, vous savez ce qu'on dit, aux États-Unis, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire. En France, on vous demande c'est quoi ton diplôme. Et, ouais. Et en Belgique, c'est est-ce que vous parlez néerlandais. Donc c'est un petit peu, c'est un peu ça. Mais donc j'ai trouvé du côté de Charleroi, il y a un homme qui m'a fait confiance, Thierry Languillet, qui est toujours d'ailleurs mon mentor et qui était directeur de toutes les agences de plusieurs agences bancaires à Charleroi. Puis lui, il m'a vraiment fait confiance et puis il m'a dit, il m'a pris sous son aile, il m'a dit, je vais te former, tu vas voir, tu vas bosser avec moi. Et il se trouve que au bout de 2 ans, je me fais virer pas de peau, quoi. Donc 2008, je me retrouve à Charleroi. Donc alors c'est bien parce que moi j'adore Charleroi. C'est une ville culturellement qui est fantastique. Parce qu'en plus moi je vois ça via le prisme culturel, puisque ma mère, la première chose qu'elle me dit, c'est mais c'est génial, tu vas à Charleroi, il y a Charleroi danse, c'est fantastique. Alors c'est assez confidentiel malheureusement, mais c'est mondialement connu où il y a tous les plus grands chorégraphes du monde qui se bousculent pour venir présenter leurs créations.
C'est vrai.
Et donc moi Charleroi, je suis super fan. Et là donc je me retrouve, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Et là j'ai l'opportunité avec un copain à l'époque de monter une boîte d'informatique pour justement créer des sites internet, des sites internet et des programmes.
C'est quelque chose que tu faisais plus vraiment pendant ces deux ans?
Je continuais un petit peu à m'intéresser à ça. Sur le côté j'avais refait un autre site internet et puis ça me passionnait parce que encore une fois ça alliait créativité et structure. Donc là, on monte la boîte, ça cartonne, ça marche bien. Puis, donc là, je me professionnalise et je m'aperçois que c'est un monde quand même vachement drivé par les hommes. Donc tout le contenu que je pouvais trouver pour pouvoir parfaire mes connaissances et évoluer, c'était du contenu essentiellement orienté homme. C'était masculin, c'était écrit par des hommes et on se retrouvait pas. Donc c'était un jargon souvent incompréhensible. Parfois on posait des questions. Enfin c'était compliqué d'avoir des réponses. Moi en tant que femme, je me sentais pas forcément hyper valorisée et je trouvais pas forcément les informations qui étaient pertinentes. Donc ça rentrait très fort dans le détail.
Et c'est là que tu as lancé Girlic.
Et c'est là que j'ai lancé Girlic. Parce que c'est parti vraiment d'un constat, c'est l'analogie, c'est avec la voiture, c'est un homme s'intéresse plutôt à la puissance d'un moteur et la femme plutôt au confort de l'habitacle. Les nouvelles technologies, le code, c'est vraiment la même chose. Nous, les femmes, on va avoir tendance, pas forcément à faire des études là-dedans, mais il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans le secteur des nouvelles technologies parce qu'elles vont utiliser les outils à leur disposition comme un moyen pour arriver à une fin, alors qu'un homme va plutôt avoir tendance à les utiliser mais comme une performance.
Oui.
Donc on n'est pas du tout dans la même approche. Et ça me passionnait parce que je me suis dit c'est formidable parce que là il y a la moitié de l'humanité qui n'est pas du tout dans le coup, qui pourrait apporter une valeur extrêmement intéressante.
Et
créer vraiment de la valeur pour la société et puis pour le pays, pour la croissance, tout ça. Donc j'ai créé Girlic, effectivement.
Et tu t'es sentie soutenue?
Ah oui, je me suis sentie soutenue. Alors, c'est rigolo parce qu'on a quand même quasiment la moitié de lecteurs ou de suivers hommes parce que ça les amuse et puis ils aiment bien aussi de voir la manière dont on parle des nouvelles technologies. Au contraire, je pense que les hommes sont plutôt contents de nous voir débarquer et au final, on a un vrai soutien. Et donc, on a pris le parti de faire un site vraiment à l'époque tout rose. Maintenant, même si on est en train de tout changer, charte graphique, logo, tout, tout va être prêt pour le 4 avril prochain. D'ailleurs, on fait une petite fête. Hein. Donc, vous êtes tous invités. C'est bien. Mais l'idée, c'était de dire, nous aussi, on a une place et on a un rôle à jouer dans ce secteur.
Et Molon Geek, alors, comment est-ce que tu arrives à créer ça avec un homme, finalement, avec cette complémentarité?
Il s'est passé quand même d'autres choses entre-temps. Donc, finalement, Girlic, ce qui était intéressant, c'est que ça a été un véritable vecteur d'émancipation. Grâce à Girlic, j'ai pu faire de la radio, j'ai pu commencer à écrire dans la Nouvelle Gazette. Et donc, j'avais...
Une certaine visibilité.
J'avais surtout mon fil conducteur. Donc, les femmes, les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat.
Oui.
De là, j'ai repris la tête du Beta Group, qui était à l'époque la plus grande communauté de start-up, puisque son fondateur, Jean Derelli, m'avait repéré et trouvait que ce que je faisais, c'était vraiment super. Et il se disait, mais nous aussi, on a besoin de plus de femmes. À l'époque, il y avait peut-être, 15-20% de femmes dans la communauté. Et donc, je me vois projetée à la tête de cette énorme communauté. J'organise des événements tous les mois qui rassemblent plus de 500 personnes.
Et ça, c'était il y a combien de temps, pour
resituer un peu ?
Ça,
c'était de 2012 à 2015.
D'accord.
Et donc, j'anime comme ça cette communauté avec plein de startups qui viennent à mes événements, qui sont suivis d'apéros géants et où les gens sont vraiment cool, tranquilles, ils sont chill, ils sont là pour rencontrer du
genre. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces apéros, justement, pendant tous ces événements ?
Alors, ils sont là, il y a 5 ou 6 startups qui présentent leurs produits ou leurs services.
Oui.
Et puis, la communauté est là pour donner du feedback sous forme de questions, sous forme de tweets. Et ils sont là aussi pour se rencontrer. Parfois, il y avait des investisseurs qui étaient là. Il y avait aussi, c'était l'occasion de rencontrer, de faire des call to action, de dire, moi, je recherche un développeur, je recherche un designer.
Donc, le networking digital, quoi.
C'était, avec du présentiel pendant chaque mois. pendant ces événements à l'ULB. Et puis, en 2015, j'ai eu ma fille, Alice. Et là, donc, pas vraiment réorientation. Là, je me dis, bon, OK, les événements, enfin, c'est bien, mais j'aimerais bien aller plus loin. Et là, j'ai la chance de lanceré la communauté Start It à Bruxelles. Donc, KBC avait lancé son incubateur, 5 lieux en Flandre, et puis cet espace à Bruxelles. Ils avaient besoin de quelqu'un d'hyper connecté avec la scène tech bruxelloise pour pouvoir remplir...
La candidate idéale.
Donc, j'étais la candidate idéale, et l'aventure a duré un an, et c'était vraiment passionnant, parce qu'il y avait plein de startups qui étaient là, c'était vraiment chouette, hyper riche. Et puis, en parallèle de ça... Donc Ibrahim Moussari, qui venait à mes événements. Alors moi, je me plaignais parce que j'avais pas assez de femmes. Lui, il me disait, écoute, y a pas du tout de diversité. Je suis seule arabe dans tes events. Je dis, ah oui, d'accord, c'est vrai. J'avais pas vu ça. Et du coup, il se dit, mais c'est pas possible, quoi, dans cette scène technologique, que y ait pas de jeunes des quartiers. C'est pas normal. Et donc, il décide avec une bande de copains de lancer le premier événement Molen Geek en mai 2015, et pour faire un test et pour voir si les nouvelles techniques entrepreneuriales, les nouvelles technologies, ça leur plaît, quoi, aux petits jeunes des quartiers.
C'est parti de frustration, le manque de femmes et le manque de diversité.
Lui s'était dit, c'est quand même pas normal. Lui, il avait monté plein de boîtes, et puis il y avait plein de gens en tant que rôle modèle. Il se disait, mais c'est pas possible, il y a plein de gens qui me demandent comment j'ai fait. Et du coup, il s'est dit, on va monter une sorte de start-up week-end à Molenbeek. Donc il a appelé ça les Molenbeek Events. Et puis il a voulu aller plus loin, et puis il m'a contacté, et puis il m'a dit, oui, il faudrait que tu rejoignes l'aventure. Où je voudrais organiser un deuxième événement, celui de janvier 2016. Et c'est là que tout s'est accéléré, parce que avec mon savoir-faire de gérer, créer des communautés tech, je lui ai dit, écoute, il faut absolument avoir un point de chute. Et c'est là qu'on a ouvert le premier espace de coworking qui faisait 65 mètres carrés, et puis de fil en aiguille, on l'a agrandi. Et là, j'ai vu débarquer des gens que je ne voyais pas du tout, des petits jeunes de 19 ans, des petits jeunes des quartiers qui avaient des idées complètement farfelues. Et je me suis dit, mais c'est bingo, parce que l'innovation vient de la jeunesse, ça vient d'eux, de par leur manière d'utiliser les nouvelles technologies, leur vision du monde. Et c'est ça qui était intéressant. Et je voyais qu'ils avaient cette fibre entrepreneuriale qu'il fallait absolument entretenir. Et souvent, et on le sait en Belgique, souvent il y a pas beaucoup d'entrepreneurs parce que on est un peu freiné par la famille, par les personnes qui nous entourent, parce qu'ils projettent leur peur sur la personne. On a peur que la personne se plante. Et du coup, c'est important d'avoir des incubateurs, parce que là, les gens vont rencontrer d'autres personnes et ils vont pouvoir se dire, ah mais ok, toi aussi, tu as ces problèmes-là à la maison, ah ok, je suis pas seule.
Et quelle est la particularité de cet incubateur? Qu'est-ce qui fait sa force finalement?
Les jeunes se rencontrent, et puis c'est extrêmement accueillant et c'est complètement gratuit. On voit pas toute cette diversité, tous ces
donc,
jeunes.
Donc il n'y a aucune sélection, force. Comment ça se passe la sélection? Parce que vous avez aussi la Coding School, c'est ça? Donc il y a un espace un peu coworking qui est là très ouvert, je crois.
C'est ça.
Et il y a aussi la Coding School.
Alors voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'on a, il y a différentes activités. On a commencé par les événements, puis on a ouvert un espace de coworking pour accueillir les porteurs de projets. Là, on a ouvert la Coding School parce qu'on s'est aperçu qu'il manquait de compétences tech.
Oui.
Et puis on a ouvert aussi l'incubateur où effectivement les startups sont là pour travailler sur leurs projets dans l'espace de coworking.
Et ça dure combien de temps? Un an? Quelques mois?
Alors ça dure longtemps, parce que donc la Coding School elle dure 6 mois.
D'accord.
Mais l'incubation ça prend du temps, parce que souvent on a des jeunes qui reviennent de loin, qui n'ont pas forcément cette culture entrepreneuriale, et donc il y a tout un apprentissage en termes de mots, de concepts à acquérir avant de pouvoir vraiment lancer son entreprise. Mais donc c'est ce qu'on fait. La Coding School, c'est un mois de quasiment de sélection pour pouvoir entrer dans cette fameuse Coding School. Il n'y a pas du tout de test disqualifiant. Ce qui est important, c'est vraiment de remettre l'humain au centre et de dire, ok, tu veux devenir développeur, tu vas d'abord tester ce que c'est. Et là, on fait un premier test sur du JavaScript pour voir un petit peu la logique. Donc là, déjà, il y a un écrémage, il y a ceux qui ça leur plaît pas, enfin, ils comprennent pas. Okay. Et puis après, on a une semaine où ils apprennent à coder, faire leur premier site internet. Déjà là, pendant 5 jours, ils sont là derrière leur ordinateur. Ils commencent à avoir un petit aperçu de ce que c'est.
C'est une phase de test concret.
Si ça leur plaît. Voilà, exactement. Et puis ensuite de ça, il y a encore un autre test pour voir un petit peu leur aptitude en groupe. Hein, mais il n'y a rien de disqualifiant. À la fin, l'écrémage se fait par lui-même. Et nous, on est là juste pour réorienter. Si jamais on voit qu'il y a des jeunes qui ont des problèmes, qui sont endettés, qui ont des problèmes de logement, qui ont des soucis familiaux, on les oriente vers des assistantes sociales pour qu'ils règlent leurs problèmes, pour qu'ils puissent revenir. Parce que le but, c'est qu'ils investissent sur eux-mêmes. Et on le sait, un jeune qui a des problèmes d'argent, le problème, c'est qu'il va, au bout d'un moment, il va devoir chercher du boulot. Et il pourra, et c'est un cercle vicieux parce qu'il va jamais réussir à investir.
Oui.
Et puis, donc il y a ça. Et puis, donc l'écrémage se fait. On a notre sélection. Quand on voit qu'on en a, il y a trop de bons candidats, bah nous on y va avec Ibrahim, hein, on est des entrepreneurs, donc c'est pas grave, on rouvre une formation à la suite, on chamboule les plannings, on y va, on fonce, parce qu'on peut pas laisser des jeunes sur le carreau, c'est pas possible.
Et
c'est...
vous êtes combien d'encadrants entre guillemets ou d'accompagnateurs, je sais pas comment dire ça, mais
total on est 17. On est 17, on est une belle équipe à Molenbeek, c'est essentiellement des coachs. Et c'est des coachs qui sont formidables. Donc ça fonctionne bien parce que ça tourne.
Et là, ça fait 2 ans, c'est ça ?
Ça va faire 2016.
Ça va faire 3 ans.
Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'il y avait le premier événement en 2015, mais c'est vrai que ça fait vraiment 3 ans qu'on est établi et qu'on a un chouette espace.
Et le bilan, si en quelques phrases tu pouvais résumer un peu ces années passées, est-ce que c'est à la hauteur de tes espérances ? Est-ce que ça a même dépassé tes espérances ?
Ah bah oui, c'est formidable. Nous, on a entre 30 et 40% de femmes dans nos coding schools, dans nos classes. Donc, c'est des formations de 6 mois. On a des formations courtes, Actiris. Et là, du coup, on a plus de 60% de femmes qui viennent. On a 93% de taux de sortie positive. Donc, c'est qu'à la suite de la coding school, soit les jeunes trouvent un stage, soit ils sont embauchés, soit ils montent leur boîte ou alors ils continuent, ils persévèrent dans des études toujours dans le domaine des nouvelles technologies. Et puis alors, je crois qu'un des plus beaux commentaires que j'ai eu récemment, c'est un jeune qui me disait il y a Bruxelles Formation qui est notre partenaire pour les formations longues. Bruxelles Formation m'a appelé pour avoir un feedback. Puis alors, il voulait être un peu dur comme ça. Puis il dit oui, moi, j'utilise plus les langages de programmation, mais par contre, j'ai appris une méthodologie. Donc maintenant, aujourd'hui, dès que je suis face à un problème à l'inconnu, je sais comment me débrouiller.
Comment
alors il voulait faire il n'utilise plus les programmes de programmation. Mais je dis, mais c'est pas grave, t'avais vraiment dit ça, mais c'est juste formidable. C'est pari réussi, quoi. T'es sur les rails, mais totalement. Parce que tu sais travailler seul, tu as la méthodologie et tu as acquis cette autonomie et cette indépendance. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut qu'un jeune qui passe par Molenbeek puisse au final pouvoir s'adapter à l'environnement, puisque les technologies, ça évolue tellement vite qu'il faut s'adapter, sinon il n'y a pas le choix, sinon on meurt.
Donc on va garder les deux valeurs, autonomie et indépendance. Et je vais passer la parole maintenant à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui, je pense, a plein de choses à raconter.
C'était vraiment passionnant, je suis resté bouche bée. Tu as terminé en parlant de l'autonomie et c'était ma question. On voit aujourd'hui qu'il y a des immenses opportunités dans le tech, on parle du geek et on parle toujours de technologie, mais en effet, cette méthodologie ou ce savoir-faire différent et l'entrepreneuriat ne se limite pas au tech. Donc est-ce que tu vois pas aussi une énorme opportunité au-delà de l'apprentissage du code,
oui,
mais aussi de devenir autonome par l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il y a un espace qui est à prendre, notamment à Bruxelles, pour apprendre aux gens autre chose que la tech ?
Tout à fait. Nous, c'est ce qu'on fait, nous, à Molenbeek, évidemment, parce qu'il y a effectivement cet énorme centre de formation. C'est vrai qu'on a plus de 100 jeunes qui sont passés par... qui ont appris les langages de programmation, qui sont devenus full stack développeurs à Molenbeek. Et c'est vraiment la spécificité de Molenbeek, c'est qu'on rajoute une couche d'entrepreneuriat. Parce que tout le monde ne peut pas être embauché. Tout le monde n'a pas forcément le bon profil. Moi, j'étais l'exemple parfait. J'avais un parcours complètement atypique. Les recruteurs, ils regardent mon CV, ils disaient que c'est n'importe quoi. Et là, en fait, quand on combine les deux, finalement l'identité est un peu mise sur le côté et l'entrepreneuriat permet de valoriser ce qu'on sait faire. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a un tel besoin de compétences dans le digital et dans les nouvelles technologies que finalement n'importe qui peut lancer son entreprise, être son propre patron, et parce qu'on va regarder simplement ce que il ou elle sait faire.
En fait, je crois que c'est vraiment ça le changement. Avant, tout le monde sort de l'école avec les mêmes compétences, le même âge, la même expérience, de manière assez homogène. Il y en a qui sont un petit peu meilleurs que d'autres. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça n'a plus beaucoup d'importance. Le fait que tu ailles passer 4 ans à apprendre une chose ou une autre, c'est vraiment très peu de temps. Tu peux te distinguer. Et donc je crois que là où avant, si tu n'étais pas dans le moule, tu penses que tu étais personne. bah, aujourd'hui, moins tu es dans le moule, plus il y a de choses à faire, quelque part.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce qui est rigolo à voir à Molenbeek, c'est que les jeunes, donc ils font ce cursus hein, de 6 mois, puis après, ils commencent à se spécialiser. Donc, il y a des affinités. Il y en a certains qui préfèrent rester sur du front, donc tout ce qui est design. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence artificielle. Bah, moi, c'est les bots, tout ce qui est référencement. Et donc, il y a des... C'est comme un... Ils prennent tous un chemin complètement différent. Il y en a d'autres, c'est les jeux vidéo. Et donc, c'est ça qui est formidable, c'est un domaine qui est tellement vaste et les nouvelles technologies impactent tellement nos vies et tellement tous les secteurs de chaque, ou tous les départements de chaque entreprise, que finalement c'est vraiment une, après c'est, ils ont fait leur gamme et c'est leur, juste une question d'affinité, en fait. C'est okay. Ça qui est formidable.
Et l'impact des rencontres alors aussi, c'est ça, c'est d'être dans le bon timing avec les bonnes personnes et de faire exister un projet à partir de gens que tu croises au bon moment.
Bah, tout à fait. Puis alors, c'est vrai que nous, on organise beaucoup d'événements, on fait venir beaucoup de gens, on essaye de... moi, je suis très à l'écoute hein, vraiment de la communauté. Donc, quand il y a des jeunes qui me disent, bah, voilà, on voudrait aller dans tel événement, on voudrait découvrir telle ou telle chose, bah, on y va, quoi. Alors après, c'est vrai que de ma part, ou de notre part, c'est un engagement parce qu'il faut être hyper disponible et être extrêmement à l'écoute. Mais il n'y a que comme ça que ça fonctionne. C'est vrai qu'il faut, il faut arriver à faire le pont entre Molenbeek, donc Molenbeek et puis le reste de la communauté tech. Et ça aussi, c'est super important. Parce que pourquoi les jeunes ne venaient pas dans les autres incubateurs, dans les autres organisations qui aident des entrepreneurs, c'est qu'ils ne se reconnaissaient pas. Ils ne se sentaient pas légitimes. Il y avait un vrai problème de reconnaissance ou de bah, « je ne me sens pas à ma place ». Et Ibrahim, on l'avait vu. Plein de fois, il m'avait envoyé des jeunes chez Startit et à chaque fois, je les accueillais bien. Et puis, ils repartaient en appelant Ibrahim, mais non, mais ce n'est pas pour moi. Quoi. Je ne me sens pas bien. Maintenant, Paris réussi, on y arrive. Eux-mêmes, les jeunes, ils vont dans d'autres meet-up, dans d'autres événements, et ils se sentent légitimes parce qu'ils comprennent, ils ont toutes les clés, ils comprennent les notions, ils ont tous les codes. Et c'est ça qu'on arrive à faire avec Molenbeek, c'est être finalement le tremplin vers un monde d'opportunités.
Mais d'ailleurs, pour avoir suivi les débuts de Startit, et maintenant on parle d'incubateur, et avant, je crois, on parlait de couveuse.
Oui.
Et c'est un peu le grand challenge de mon expérience, c'est qu'on veut accueillir les gens avec beaucoup de bienveillance, leur donner des bureaux, leur donner de l'accueil, du gratuit, des conseils. Mais le challenge, c'est de ne pas rester une couveuse à vie. Quoi. C'est
bah,
comment à la fois les accueillir, mais aussi les rejeter. À un moment, il faut naître, il faut vivre et il faut... partir, quoi.
Donc, bah, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment... ça, il faut être bien conscient. Il ne faut pas vraiment les garder pour soi. Moi, il y a un jeune, l'autre jour, il me dit « Ouais, Julie, écoute, moi, j'ai trouvé un bureau. » Enfin, limite, il s'excusait. Mais je lui dis « Mais tu rigoles ou quoi ? Mais c'est bien, casse-toi. C'est bien, il faut partir, quoi. Tu dois venir à Molenbeek, prendre ce qu'il y a à prendre et à un moment donné, tu dois voler de tes propres ailes. » Je dis « Ce serait quand même gravissime que tu restes ad vitam aeternam ici. C'est pas normal. Ça doit être fluide. » Et alors, donc, du coup, nous, ce qu'on fait, nous, dans notre... Dans l'incubateur, c'est que tous les mercredis soirs, on réunit les porteurs de projets et sous forme de cercle, et on organise des workshops très, très thématiques. Je fais venir des intervenants, des gens mais genre extraordinaires, des entrepreneurs hyper successful et qui sont là et qui viennent coacher les jeunes. Le but, c'est d'entretenir la flamme et puis surtout de se fixer des tâches parce qu'il faut pas... Bon, on se réunit pas comme ça pour papoter. On est là, ok, c'est quoi c'était quoi tes devoirs ? Est-ce que tu les as faits ? Tu les as pas faits ? Qu'est-ce qui a bloqué ? Et c'est quoi tes devoirs pour la semaine prochaine ? Et il n'y a que ça avance. Il n'y a que comme ça. Parce que l'autonomie, ça ne s'acquiert pas comme ça. Il faut à un moment donné être là pour pouvoir les pousser.
Comme le dicton chinois qui dit un chemin de 1000 pas commence par... Il faut poser le premier pas sur ce grand chemin. Quoi.
Exactement, c'est exactement ça.
Tu parlais dans une récente chronique aussi de l'importance, donc c'est ça, des rôles modèles. Et dire on a besoin de beaucoup de rôles modèles ici concrets qui montrent que il faut arrêter de rêver juste Mark Zuckerberg mais aussi de voir des gens qui ont fait des petits pas et qui ont eu après une grande incidence, donc c'est vraiment de donner de courage aux gens de prendre confiance dans des petits accomplissements, je vais dire. Voilà.
Bah, tout à fait. Et moi, je crois beaucoup au rôle modèle accessible. Et donc, moi, j'ai une collaboratrice qui s'appelle Sephora et que je trouve juste extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui se bagarre, quoi. Et souvent, une fois, dans Girlic, je l'ai interviewé pour la Minute Girlic. Et moi, ce que je trouvais extraordinaire avec cette femme, c'est que c'est une jeune femme qui a été maman à 16 ans, qui s'est bagarrée pour pouvoir continuer ses études de graphisme, de design, qui est en train de monter sa boîte et qui montre que, bah oui, c'est possible. Donc il y a pas de fatalisme, c'est on peut y arriver quoi. Il faut s'organiser, il faut se donner le moyen, il faut se donner le temps et il faut rien lâcher. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça montre aux autres et ça a un impact énorme parce que les d'autres femmes voient ça et disent ah ouais quand même quoi. Je veux dire tiens moi aussi je suis dans ce cas-là ou et on peut y arriver. Oui, on peut être maman, on peut être entrepreneuse, on peut être apprenante et continuer et continuer à évoluer. Et c'est ça qui est formidable, moi, je trouve, comme message.
Et c'est cette clé de la zone de confort, en fait. Si on te donne trop de temps, bah, tu t'apprendras jamais. Et quand la vie t'impose, parce que tu as perdu ton job, ou peu importe, que tu dois nourrir tes enfants, mais c'est une énorme opportunité, en fait.
Oui,
tout à fait. C'est une espèce d'accélérateur d'apprentissage, quoi.
Bah, y a un moment, il n'y a pas le choix, quoi. Il y a un moment, il n'y a pas le choix. Et c'est clair qu'il faut, quand faut y aller, il faut y aller. Et puis, c'est souvent quand on est au pied du mur que, bah, allez. Enfin, moi, souvent, j'ai un ami qui me dit, bah, de toute façon, Julie, toi, t'excelles quand t'es dans l'urgence, quoi. Donc, c'est vrai que quand il faut y aller, il faut y aller, quoi.
Et parfois, on a tendance à voir que ses propres problèmes à soi. Et puis après, ben, y a des problèmes qui affectent tout le monde. Et c'était le cas des attentats ici à Bruxelles. Et alors, ça me fait penser, je ne sais pas si tu as vu le film Code Girls.
Oui, je l'ai vu, ouais.
Je trouve ça génial. Donc
je crois que j'ai vu. C'est celui aux États-Unis, les portraits de plusieurs femmes entrepreneuses.
Pendant la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient spécialisées en cryptographie et qui ont joué un rôle décisif. Et c'était vraiment ça. Donc, c'est un moment d'adversité extrême. C'était donc je pense pas mal d'afro-américaines aussi,
ouais.
Et qui ont excellé, donc c'est des circonstances extrêmes qui ont permis d'établir aussi le rôle des femmes dans la technologie déjà à cette époque-là. Donc on a un peu oublié entre temps que ça s'est passé, comme le software c'est une invention féminine.
Oui.
Donc avant l'IT c'était un truc d'homme avec des cartes et des trous et des grosses machines. Et puis finalement, les femmes, c'est elles qui ont créé le software. Je crois qu'on l'oublie aussi, il faut le rappeler.
Oui, on l'oublie, et puis on oublie surtout que les premiers développeurs étaient des femmes, parce que c'était associé à tout ce qui était secrétariat. Donc c'était pas...
Exact.
Voilà. Mais puis après, on a... après, la culture finalement populaire a transformé ça en sorte de performance masculine, et du coup, on a été complètement évincés.
C'était
mais
capturé,
vrai,
quoi. Mais ça, c'est fantastique. Donc, c'est vraiment de montrer les... Il y a deux manières, je crois. Soit c'est de subir, soit de voir l'opportunité. Moi, j'ai toujours tendance à avoir le verre à moitié rempli, mais avec un visage positif. Donc, c'est parce qu'on les a reléguées au software qu'elles ont inventé le software. C'est magnifique. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut regarder autour de soi, il y a plein d'opportunités comme ça à négliger. Donc, tu parlais tout à l'heure de la communication essentiellement masculine. C'est vrai que l'histoire de la pub, elle est quand même orientée sur la ménagère de 50 ans. Donc c'est une industrie d'hommes qui ont fait des pubs pour que des femmes achètent, parce que c'était quand même elles qui payaient finalement les salaires de tout le monde, hein, in fine. Donc Jack Ma rappelait aussi que son observation, c'est que les femmes achètent toujours pour des autres membres de la famille, et qu'un homme achète toujours pour lui. Donc je ne sais pas si tu connais ça.
Non, je ne connaissais pas.
Donc, c'est vraiment... il voit sur Alibaba, la femme achète pour tous les membres de sa famille. L'homme n'achète que pour lui. C'est dingue, quoi. Moi, je trouve ça assez marquant. Et quand tu vois aujourd'hui, les femmes se réapproprient les canaux de distribution, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas attendre que la publicité parle pour les femmes avec des femmes. Il n'y a plus vraiment besoin de la publicité, quoi. Maintenant, on va pouvoir vendre en direct entre nous.
Bah, je trouve ça, oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui est formidable avec Internet, hein, et avec tout ça, c'est que c'est une vraie fenêtre finalement sur le monde, puis ça n'a pas de frontières. Donc aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs en Afrique, hein, c'est le continent où il y a le plus de femmes entrepreneuses dans la tech. Hein, elles utilisent toutes leur smartphone pour payer, pour vendre. Et ça, c'est formidable. Elles ont hacké le système. J'adore.
Et juste pour conclure sur cet aspect historique, est-ce que finalement ce choc des attentats, etc., et finalement est-ce que tu vois un bilan positif, enfin, moi j'ai envie de dire manifestement oui avec Molenbeek, mais est-ce que tu penses que ça aura permis de créer un nouvel élan justement ?
Ben nous, on est, nous, Molen Geek, ça a été créé vraiment avant les attentats. Donc nous, c'est, c'était vraiment fait par des entrepreneurs dans le but de rendre accessible à tous les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat. Donc on n'est pas du tout lié à ça. Mais c'est vrai que quand il y a eu les attentats de Bruxelles, il y a eu encore du Molenbeek bashing. Et on s'est dit mince, mais c'est pas possible. On a plein de jeunes qui sont ça les impacte hein, très fort. Et donc, on est allé voir Cécile Jodon, qui a entre autres en charge les interventions d'urgence. Et on lui a proposé d'organiser un hackathon, un événement, dont le but était de contribuer à l'amélioration des services d'urgence. On s'est dit, nous, voilà, ça pouvait faire vraiment une belle histoire, de dire, nous, on est prêts à contribuer à l'amélioration de technologies. Donc, on a réunis autour de la table, il y avait la Croix-Rouge, il y avait le SAMU, tout ça. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour montrer que, on va casser cette image négative. Et puis, on a sorti une application, Citizen Map, qui permet de collecter les défibrillateurs privés, des entreprises privées. Et c'était chouette parce que c'était une belle collaboration, c'était une belle image de montrer que, oui, on pouvait, les jeunes, on pouvait vraiment valoriser leurs compétences et ce qu'ils savent faire. Donc maintenant, vraiment, Molen Geek, on est là. On a un activateur de talent et surtout un activateur de talent là sur des jeunes qu'on a vraiment relégués, vraiment qu'on a mis sur le côté parce que soit ils ont quitté l'école super tôt, parce qu'ils ne se conforment pas au système scolaire, parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Et nous, on dit, mais c'est pas possible, quoi. Avec 42% de chômage chez 18-25 ans et une demande, mais juste gigantesque de compétences tech, mais là, on fait le lien, en fait. On fait le lien. On est là, mais coucou, regardez là. Ils sont tous là en sommeil. Il y a des potentiels, c'est des talents qui sont ici. Et donc, on braque les projecteurs vers les talents, en fait.
Et pour intégrer l'école, c'est quand la prochaine sélection ?
Alors, la prochaine sélection, c'est... Je sais plus ce que j'ai marqué. Je crois que c'est mars. C'est mars pour la Coding School. Il y a mars, avril. Et en principe, ça commencerait peut-être en mai ou juin. Voilà.
OK. Donc voilà, le message est passé. Donc on va devoir conclure, et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. T'es prête ?
Oui.
Alors un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ?
De sortir de chez moi, surtout pas rester seule.
Le cliché à oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs ?
Un cliché à oublier... c'est pas facile ça. Le cliché des... c'est difficile. Je peux peut-être répondre après ?
Oui, tu peux répondre après. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser ?
Une mauvaise habitude ? J'ai pas de mauvaise habitude, je suis parfaite. Non, une mauvaise habitude, non.
T'es ordonnée, je sais pas, t'es... Ouais, tu veux...
ouais, je suis assez méthodique, je suis bien organisée.
Donc, aucun défaut, quoi.
Je dois lever le pied, je suis un peu infurée parfois quand je dois monter des dossiers, je suis hyper concentrée, parfois je suis trop à fond, quoi. Donc parfois je dois un peu lâcher le pied,
un peu déconnectée,
ouais.
Une citation que tu aurais rêvé de dire?
Une citation que j'ai rien ne se perd, tout se transforme.
Très bien. Et pas de réminiscence pour le cliché à oublier sur les entrepreneurs ?
Alors, sur les entrepreneurs, un cliché... non, j'ai pas...
Les entrepreneuses ?
Ou sur les entrepreneuses ? Non, j'ai pas... Non, je vois pas comme ça, je vois pas vraiment de cliché,
bon.
Non.
C'est
peut-être parce que j'ai né dans le guidon, je pense, à mon avis.
Si tu reviens dans un prochain épisode, on pourra voir si tu as une réponse ou pas. Merci en tout cas, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute, on espère vous avoir inspiré. Merci Julie, merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
Merci Julie, merci Elisa.